Le bistrot du livre. Poussez la porte, asseyez-vous, et la suite, on vous la raconte. Se balader au milieu des livres, avec nos coups de cœur et nos coups de gueule, il n'y a pas de raison, des invités et les petites histoires des grands auteurs.
Le bistrot du livre, une émission proposée par Cépage d'encre avec Henri et Françoise. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Aujourd'hui, un cas à part. On ne vous parlera pas d'un auteur en particulier, mais d'une enquête, comme une enquête policière autour d'un roman. Il est des romans que l'on connaît même si on ne les a pas lus. Si je vous dis « À la recherche du temps perdu »,« Notre-Dame de Paris »,« Voyage au bout de la nuit », on sait qu'on parle de Proust, de Victor Hugo ou de Céline. Il en va de même avec celui-là. Là, il s'agit d'un roman du 19e siècle qui a fait scandale lors de sa publication et qu'on devrait vraiment relire. On va en profiter.
Alors, son titre, c'est « Madame Bovary ». Et son auteur, Gustave Flaubert.
Poursuivi pour atteinte aux bonnes mœurs et à la religion, mais sans suite, le procès a fait flop. Mais ce que cachait ce procès, c'était le talent de Flaubert pour scruter son époque, peindre ses contemporains, cette petite bourgeoisie de province, repliée sur elle-même, nous sommes en Normandie, des personnages médiocres, lâche, séducteur à la petite semaine, et j'en passe. Ce que l'on reprochait aussi à Flaubert, c'était de raconter ses liaisons amoureuses et l'érotisme qui s'y attachait. Mais tout l'art de Flaubert n'est pas de tomber dans la psychologie de bazar, non. C'est par la description, l'art du détail qu'il met à jour ses personnages, une écriture au scalpel. Prenez Charles Bovary. Petit médecin sans talent, le roman débute sur son entrée au collège et la description de sa casquette en dit beaucoup sur ce garçon empoté, timoré.
C'était une de ces coiffures d'ordre composite, où l'on retrouve les éléments du bonnet à poils, du chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton. Une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. Elle commençait par trois boudins circulaires, puis s'alternait, séparée par une bande rouge, des losanges de velours et de poils de lapin. Venait ensuite une façon de sac, qui se terminait par un polygone cartonné, couvert d'une broderie compliquée, et d'où pendait, au bout d'un long cordon trop mince, un petit croisillon de fil d'or en matière de gland.
Aujourd'hui, on dirait habillé pour l'hiver. Mais c'est là où Flaubert est passionnant, dans ce détail qui dit tout. On y reviendra pour le passage qui avait fait scandale, la scène du fiacre, une séquence haute. Car là-dessus non plus, Flaubert ne lésine pas. Mais avec un talent et du travail, il faut savoir qu'il a mis 5 ans pour écrire Madame Bovary.
Mais l'enquête dans tout ça ?
Alors ça remonte à mes années de fac. Nous avions un prof, un de ces profs mythiques qui vous marquent les études, grand gourou qui faisait amphi complet pour ses cours, ses grands messes. Il s'appelait Jacques Sébachère, maître de conférences à Caen, à Paris, et organisateur de colloques sur le 19e siècle à Normale Sup. Et c'est pour l'un de ces colloques qu'il nous a mis à contribution, un petit groupe d'une dizaine d'étudiants pour être ses petites mains, pour l'aider dans ses recherches. Objectif, établir une chronologie précise de l'histoire d'Emma Bovary. Avec un de ses collègues qui avait travaillé sur l'histoire, la grande histoire, qui apparaît en filigrane, ils avaient déterminé que le roman démarrait en 1828, avec l'entrée de Charles au collège. On savait aussi que Flaubert aimait s'inspirer de ce que l'on appelle aujourd'hui des faits divers ou d'événements personnels. Les liaisons d'Emma, son suicide, étaient tirées d'une affaire qui venait d'avoir lieu. Et la nièce de Flaubert, la nièce elle-même, auquel il était très attaché, s'était aussi suicidée suite à des déceptions amoureuses. Donc d'abord, petit résumé des épisodes précédents, et on en arrive au cœur de l'affaire.
Charles Bovary, petit médecin, épouse une riche veuve, bientôt ruinée par un notaire véreux. Au cours de ses visites, il rencontre Emma Rouault, jeune fille rêveuse et ambitieuse qui ne demande qu'à quitter la ferme de son père.
Jalousie de la femme de Charles, qui, ça tombe bien, meurt peu après. Et une fois le deuil consommé, Charles épouse Emma. Mais à la lune de miel, succède très vite la routine et la monotonie. Emma s'ennuie et devient mélancolique.
Elle portait une robe de chambre toute ouverte, qui laissait voir entre les revers du corsage une chemisette plissée avec 3 boutons d'or. Elle s'était acheté un buvard, une papeterie, un porte-plume et des enveloppes, quoiqu'elle n'eût personne à qui écrire. Elle époussetait son étagère, se regardait dans la glace, prenait un livre, puis, rêvant entre les lignes, le laissait tomber sur les genoux. Elle avait envie de faire des voyages ou de retourner à son couvent. Elle souhaitait à la fois mourir et habiter Paris.
Et c'est là que notre petit travail d'enquêteur a commencé. Au gré des chapitres, des saisons, des indices sur les fleurs, les moissons, la météo, il fallait reconstituer, mois par mois, le déroulement des faits. Tout daté. 1840, hiver froid. 1841, Emma tombe enceinte et s'ennuie. Mars 41, Charles Bovary s'installe à Yonville, espérant que cela guérirait Emma de sa mélancolie. Juin 41, naissance de la petite fille, Berthe. Février 42, rencontre avec Léon, un clerc de notaire.
Au fond de son âme, elle attendait un événement. Comme les matelots en détresse, elle promenait sur la solitude de sa vie des yeux désespérés, cherchant au loin quelques voiles blanches dans la brume de l'horizon. Elle ne savait pas quel serait ce hasard, le vent qui le pousserait jusqu'à elle, vers quel rivage il l'amènerait, s'il était chaloupe ou vaisseau, à trois ponts, chargé d'angoisse ou de félicité.
Disons que dans un premier temps, Léon sera plutôt chaloupe. Une liaison s'installe, il lui promet de partir loin, mais au dernier moment, hop, il se dérobe. Première liaison, nouvelle déception, nouvelle crise de mélancolie. Alors elle se met à dépenser de l'argent pour ses toilettes, pour des babioles, auprès de Monsieur Lheureux, le mal nommé, l'oiseau de mauvais augure. Elle commence à contracter des dettes.
Souvent, elle variait sa coiffure. Elle se mettait à la chinoise, en boucles molles, en nattes tressées. Elle se fit une raie sur le côté et roula ses cheveux en dessous, comme un homme. Elle voulut apprendre l'italien. Elle acheta des dictionnaires, une grammaire, une provision de papier blanc. Elle essaya des lectures sérieuses, de l'histoire, de la philosophie. Des tapisseries qui, toutes commençaient, encombraient son armoire.
Bref, elle s'ennuie, elle dépense, et Lheureux fait crédit. Mais attention, il tient les comptes. Et pour l'enquête, nous devions nous occuper de toutes les références chiffrées dans le roman. Donc Lheureux, bien sûr, était un personnage privilégié. D'autant que Charles, le mari, lui aussi, emprunte à son tour pour maintenir son niveau de vie. Nous sommes en juillet 42, apparaît Rodolphe. Et très vite, nouvelle liaison et nouvel échec. Quelques temps après, au cours d'une soirée à l'opéra, Emma croise de nouveau Léon. Et l'aventure repart de plus belle. Il s'est installé à Rouen, les retrouvailles se font dans le fameux fiacre, et tout l'art de Flaubert est en décrivant la course du fiacre d'inviter le lecteur à imaginer ce qui peut bien se passer à l'intérieur.
« Où monsieur va-t-il » demanda le cocher. « Où vous voulez ?» dit Léon en poussant Emma dans la voiture. Et la lourde machine se mit en marche. Elle descendit la rue, traversa la place, le quai, et s'arrêta devant la statue de Corneille. « Continuez !» fit une voix de l'intérieur. Se laissant emporter dans la descente, elle entra au grand galop dans la gare. « Non, tout droit !» cria la même voix. Le cocher s'essuya le front, mit son chapeau de cuir entre les jambes et poussa la voiture au bord de l'eau. Tout d'un coup, elle s'élança d'un bond à travers quatre mares, Sotteville, et reprenant sa course, elle passa par le quai, par le pont, par la place, derrière l'hôpital, et sans parti pris ni direction, elle vagabonda. De temps à autre, le cocher jetait un regard désespéré au cabaret. Il ne comprenait pas quelle fureur de la locomotion poussait ces individus à ne pas vouloir s'arrêter. Et les bourgeois ouvraient de grands yeux ébahis devant cette chose si extraordinaire en province, une voiture à store tendu qui apparaissait ainsi continuellement, plus close qu'un tombeau et ballottée comme un navire. Une fois, au milieu du jour, une main nue passa sous les petits rideaux. Puis, vers 6 heures, la voiture s'arrêta dans une ruelle et une femme en descendit qui marchait, le voile baissé, sans détourner la tête.
Ces rendez-vous amoureux dureront de l'été 44 au début de mars 46. En parallèle, les dettes s'accumulent et un beau jour, Lheureux vient rappeler les quittances. Nous sommes en janvier 45.
Jusqu'à présent, j'ai été assez bon avec vous. Et, déployant ses registres puis remontant la page avec son doigt, voyons, 3 août, 200 francs. au 17 juin, 150. 23 mars, 46. En avril...
On reprend. Toutes les sommes sont des chiffres ronds, sauf une. 23 mars, 46. Nous sommes, selon notre chronologie, en janvier 45. Finalement, Léon n'emmènera pas Emma loin de son mari, comme promis. Au dernier moment, il lui enverra une lettre de rupture, pris peur par les conséquences. Nous voilà au début du printemps 46 et là, tout se précipite. Le 20 mars, on saisira les biens. Le 22 mars, Emma revoit Léon une dernière fois, mais en vain. Elle rentre chez elle et le 23 mars 46, elle absorbe de l'arsenic et mourra le lendemain à 11h. 23 mars 46. Comme la dette, rappelée par l'heureux, comme un signe prémonitoire de la mort d'Emma. Moralité, Flaubert avait glissé des indices dans son roman sur la suite des événements, en espérant que cela resterait son petit secret, comme quoi les grands auteurs peuvent être aussi des petits cachotiers. Voilà, le comptoir des lecteurs maintenant, le coup de cœur, Charlie, un bon bouquin, je crois.
Oui, mais difficile de passer après Flaubert. Avec Douglas Kennedy, donc auteur américain, le livre c'est Cul-de-sac, ça a été retraduit là, maintenant ça s'appelle Piège nuptial. Comment dire, c'est du suspense, humour noir. On raconte brièvement l'histoire, c'est un journaliste, Nick, qui s'en va sur un coup de tête en Australie. Là, une nuit, il a un accident fatal avec un kangourou. Il rencontre une jeune fille, Angie, qui l'emmène au cœur du bush et dans une espèce de secte de frappadingue. Et le problème arrive, on passe en plein cauchemar. Il doit partir à tout prix, s'échapper, mais c'est impossible. On pourrait résumer, j'ai trouvé une phrase qui correspondait bien, c'est « tout quitter pour le bout du monde », non, « quitter le bout du monde à tout prix ». C'est chez Gallimard, série noire.
Super, on va rester chez Gallimard, mais là dans un autre registre, moi c'est Papa de sang de Jean Hatzfeld, l'homme qui n'a pas cessé d'essayer de comprendre les massacres du Rwanda, le génocide des 800 000 Tutsis par les Hutus entre avril et juillet 94. Sur place pour Libération, au moment des massacres, Hatzfeld a recueilli durant le conflit des centaines et des centaines de témoignages, à la fois du côté des bourreaux, les Hutus, que du côté des victimes, les Tutsis. Et depuis, il n'a de cesse de retourner au Rwanda pour prolonger l'enquête. Il en a fait plusieurs romans, Une saison des machettes ou La stratégie des antilopes. Et aujourd'hui, il s'interroge sur le traumatisme des enfants de ces victimes, la deuxième génération, les enfants des victimes ou des bourreaux. Comment vivent-ils ? Comment acceptent-ils ce que leurs parents ont subi ou commis ? Le traumatisme de la génération suivante. C'est terrible. C'est écrit avec la poésie de la langue, riche d'images et de sensibilité. C'est à la fois terrible et magnifique, comme un cœur antique dans les tragédies, mais sans pathos. Juste les mots qui disent l'horreur et la souffrance, mais aussi l'humanité et la sagesse. Papa de sang, Jean Hatzfeld, chez Gallimard. Sûrement le livre le plus poignant que j'ai lu depuis bien longtemps. Alors on n'a pas encore parlé des prix littéraires, normal, tout le monde en parle, donc nous on en parlera différemment et plus tard. On fera une émission d'ailleurs spéciale là-dessus, un de ces jours sur les Nobel, les Goncourt, les Renaudot. Voilà pour aujourd'hui, à bientôt.
À bientôt.
Vous êtes bien sur Radio Marseillais, votre radio audoise.